point sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'était donc le journal de Jean-Baptiste Marot qu'on retrouvera dans une heure. Pour d'autres informations, comme tous les jours à cette heure-ci, vous le savez, RFI vous donne la parole, nous commenterons ensemble l'actualité. Nous reviendrons dans 30 minutes sur la situation au Burundi où l'opposition est plus que jamais déterminée à poursuivre sa mobilisation pour contrer la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Hier, la Cour constitutionnelle a validé cette candidature, mais pour les opposants, cette Cour est aux ordres du pouvoir, donc pas question pour elle de renoncer aux manifestations, pas question non plus d'accepter la main tendue du gouvernement qui propose, en échange de la fin du mouvement, de libérer les centaines de personnes interpellées ces derniers jours. Faut-il craindre de nouvelles violences au Burundi? Vos réactions évidemment nous intéressent. Comment mettre fin à cette crise qui menace la stabilité du pays? Une crise qui préoccupe de plus en plus la communauté internationale. Vous nous appelez évidemment 33 9 680 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France, et vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux. La page officielle de l'émission RFI Appel sur l'actualité, je lirai évidemment quelques-unes de vos réactions dans le courant du débat. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents dossiers. Abdoul est avec nous, il nous appelle de Bamako. Bonjour Abdoul.
Bonjour Juan Gomez, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes au Mali, et vous avez, comme plusieurs auditeurs, des questions concernant le cargo spatial russe Progress.
Exactement. J'ai appris que le cargo spatial russe Progress n'a pas pu ravitailler la station spatiale internationale ISS le 28 avril passé. Et il a commencé une chute vers la Terre. Alors j'ai une question. Quand est-ce que les débris vont toucher la Terre et sur quelle partie du globe?
Ah, bonne question, effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. C'est vrai que la Russie a perdu le contrôle de ce vaisseau spatial qui était chargé, vous le disiez Abdoul, de ravitailler les astronautes qui se trouvent dans la station spatiale internationale, une station qui est à 400 mètres au-dessus de la tête. Kilomètres, oui, 400 mètres évidemment. Simon Rosé, vous avez bien fait de me rectifier, 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes journaliste au service science de RFI. À l'heure actuelle, ce cargo est donc totalement incontrôlable. Sait-on s'il va tomber sur Terre ou s'il va se dégrader peut-être dans l'atmosphère? En tout cas, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir où tomberont les débris.
Eh bien, c'est trop tôt pour le dire, tout simplement. Et déjà, c'est pas sûr que quelque chose ne tombe sur la Terre. On l'a dit, le vaisseau Progress, c'est un vaisseau cargo, c'est-à-dire qu'il ne transporte que du fret à destination de la station spatiale, jamais d'êtres humains. Une fois qu'il a rempli sa mission, il emporte avec lui les déchets qu'ont laissé les astronautes sur la station. Et donc, pas conçu pour se poser sur Terre. En fait, il n'a pas de bouclier thermique puisque le but, c'est qu'il se désintègre entièrement dans l'atmosphère au moment où il revient. Alors, habituellement, cette descente, elle est contrôlée. C'est-à-dire qu'on le dirige pour qu'il rentre dans l'atmosphère avec un grand angle, pour qu'il frappe le plus à plat et qu'il se désagrège le mieux. Là, dans le cas présent, c'est une chute qui est incontrôlée. On ne peut pas faire cette manœuvre. C'est pourquoi les plus grosses pièces du cargo Progress, comme ses réacteurs ou son système métallique d'arrimage à la station, ont encore une chance de toucher le sol.
Ouais. Si ça arrive, Simon Rosé, quand est-ce que ça aura lieu? Et sait-on où les débris risquent de tomber?
Alors, le « où », ça dépend du camp. Ah. Et le camp, c'est trop tôt pour le dire précisément. Soyez sûr que sa trajectoire est suivie très attentivement. Roscosmos, l'agence spatiale russe, annonçait en revanche ce matin que cela aurait lieu entre 23h temps universel demain jeudi et vendredi à 20h toujours en temps universel. Parce qu'en fait, ça dépend de plein de choses. L'atmosphère, par exemple, peut être plus ou moins épaisse en fonction du moment ou du lieu. Donc ça aura une influence sur la chute du cargo. Même les vents solaires peuvent avoir un impact sur le moment où ce phénomène va se produire. En revanche, au moment où effectivement cette rentrée aura commencé, là on pourrait être beaucoup plus précis. Mais on peut, pour l'instant, on a cette fenêtre de tir d'à peu près 24 heures, on ne sait pas exactement quand. Quant à la question du lieu où ça pourrait tomber, et encore une fois je dis d'éventuels débris, je peux vous faire pour l'instant que la même réponse, on ne sait pas encore, ça dépend du moment exact où il va rentrer dans l'atmosphère et comment il y rentre. Ceci dit, Même s'il y a des pièces qui touchent le sol, il faut pas s'inquiéter. Des débris spatiaux, il en tombe tous les jours. Il y a 100 tonnes par an à peu près de débris qui tombent sur la Terre. Ah oui. Et jusqu'à présent, personne n'a jamais été touché depuis le début de la conquête spatiale.
Ils tombent essentiellement où ? Dans le désert, dans les océans ?
Dans l'océan Pacifique. D'habitude, on essaie de contrôler donc cette chute le plus possible, mais on les fait tomber dans l'océan Pacifique. Là, c'est pas le cas, c'est pas contrôlé. Mais la Terre, c'est grand. Et Erwan, je vais vous poser une question. Mettons, par exemple, à votre avis, quelle superficie, si on rassemble tous les êtres humains de la Terre au même endroit, ça fait à peu près quelle taille ?
7 milliards de personnes au même endroit ?
Collés, serrés, ouais, si on les...
Alors là, honnêtement, j'en ai aucune idée.
Ça fait un carré de 50 km par 50 km. C'est la taille d'un petit département français.
On peut rassembler tous les habitants de la planète dans une superficie de 50 km carrés.
Bah 2500 km carrés, un carré de 50 par 50.
D'accord, 1500, voilà. D'accord.
Donc la Terre c'est grand, donc finalement ça prend pas tant de place, il y a autant de chances que ça tombe en dehors de ce carré. Et donc qu'on ne risque rien. C'est la chance que ça vous tombe précisément sur vous, Rouen, c'est une chance sur 22 milliards de milliards. Donc
Moi, je vais
Alors, Stéphane Lagarde, qui vient juste de s'installer dans ce studio et qui va répondre à une question dans un instant, souhaitait prendre la parole.
Juste en Chine, certains ont reçu sur leur maison, des paysans ont reçu, reçoivent tout le temps des bouts de fusée qui tombent quand la fusée chinoise décolle près du désert de Gobi, à 400 km de là, sur un village. Il y a certains débris qui tombent, mais il n'y a pas eu de blessés. Hein.
Oui, voilà, mais c'est pas les éléments qui sont en orbite qui retombent après. C'est les premiers étages de la fusée, de la deuxième qui sont...
Voilà. C'était le commentaire de Stéphane Lagarde, ancien correspondant des RFI à Pékin et qu'on va retrouver évidemment dans un instant. Restez avec nous encore quelques instants, Simon Rosé. On a encore des questions sur ce fameux cargo spatial russe Progress. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Juan. Mais moi aussi je comprends pas. C'est pas la première fois que les Russes échouent dans une mission spatiale. Comment va-t-on procéder au ravitaillement des hommes qui sont dans la station spatiale ? Ça, c'est la première question.
Oui, alors on va déjà répondre. Il y a actuellement 6 astronautes, ça, Simon ?
Oui, et il n'y a pas de souci pour eux. Ils ont des réserves à bord, ils ne sont pas en danger. Et surtout que ce cargo, c'était un cargo russe qui devait avant tout amener des vivres pour la partie russe de la station. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Ils ont toutes les réserves qu'il faut. Ils peuvent tenir encore plusieurs mois sans problème. Sur la question de comment on fait pour ravitailler la station, il y a 4 types de cargos différents qui peuvent le faire. Il y a les Progress russes, donc. Il y a les Japonais qui en ont un, l'HTV. Mais qui volent pas très souvent, c'est une fois par an à peu près en moyenne. Le reste, c'est 2 sociétés privées avec lesquelles la NASA a passé un contrat. Il y a Orbital Sciences qui a développé une capsule, Cygnus, mais là, c'est pas trop la forme non plus parce que leur dernière mission en octobre s'est ratée, la fusée avait explosé sur le pas de tir. Et sinon, il y a une autre société, SpaceX, dont on a un peu parlé déjà sur cette antenne, qui a sa capsule Dragon. Là, à l'heure actuelle, ça semble être les plus fiables. Ils ont réussi leur dernier tir en janvier. C'est eux, d'ailleurs, qui vont faire le prochain, le 19 juin prochain. Et là, pour l'instant, c'est du 100% de réussite. Donc, il n'y a pas de souci. Ils ont des réserves et il y a des missions de ravitaillement qui arrivent assez souvent.
Donc, les astronautes peuvent continuer leurs expériences comme si de rien n'était. Moussa ?
Oui, pardon. Mais sans oublier que d'habitude, le cargo Progress russe est fiable. Il en a 4 à peu près par an qui sont tirés. Il n'y a pas de raison que cet échec se reproduise.
Moussa, vous aviez une autre question ?
Oui, et pourquoi les Européens et les Américains confient toujours ce genre de mission aux Russes, alors que c'est pas la première fois que les Russes échouent dans ce type de mission spatiale ?
Alors, de ravitaillement de l'ISS... C'est très rare qu'ils ratent. Après, c'est vrai que le spatial russe en ce moment, c'est pas la forme. Ils avaient fait scratcher 3 satellites GLONASS, qui est un peu l'équivalent russe du GPS. Mais on peut pas se passer des Russes pour la station spatiale internationale, déjà parce que c'est un des pays fondateurs. Et surtout, ils sont incontournables. Il y a une grosse partie de la station qui a été construite par les Russes. Il y a un centre de contrôle qui se trouve à Moscou. Pour le ravitaillement, on l'a dit, le Progress, c'est une bonne machine. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire appel à eux. Et surtout, les Russes sont les seuls, à l'heure actuelle, à avoir la technologie pour envoyer des hommes dans l'espace.
Et les Américains, eux, ne savent plus envoyer des hommes dans l'espace ?
Non. Ils ont fini leur programme de navette spatiale en 2011 avec la navette Atlantis. Depuis, ils n'ont pas développé... Ils sont en train d'en développer une, mais qui sera à horizon 2020, mais n'ont pas développé de capsules qui permettent d'envoyer des hommes et surtout les faire revenir, puisque c'est ça qui est compliqué. C'est de faire se poser tranquillement sur Terre, de traverser cette couche atmosphérique. Les Américains ne savent plus le faire. Il n'y a que les Russes qui savent le faire avec leur vaisseau Soyouz. Donc depuis 2011, c'est eux qui font toutes les missions pour amener du monde sur la Station Spatiale Internationale. Et ça reste, malgré toutes les tensions qu'il peut y avoir entre les Américains et les Russes sur l'Ukraine, le contexte géopolitique, on est obligé de faire appel aux Russes. Et ils le font bien. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a jamais eu de problème. Ceci dit... La NASA essaie quand même d'avoir un échappatoire. Elle a passé un contrat avec justement cette société SpaceX que j'évoquais pour que non seulement à la porte du fret à la station, mais également des hommes. Ça, ce sera à partir de 2017. SpaceX est en train de développer sa capsule. Ils font leur premier test également aujourd'hui pour envoyer des hommes à la Station Spatiale Internationale. Donc ce sera en 2017 à peu près.
Merci beaucoup Simon Rosé. On a répondu à vos questions, Moussa ?
Oui, oui, parfaitement. Merci beaucoup.
Et bonne journée à vous en région parisienne. Il est justement 10h20 ici à Paris. Vous nous appelez, toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Je vais me faire le porte-parole de Madi. Madi qui nous appelait de Fadingourma. C'est à l'est du Burkina Faso. Malheureusement, le réseau téléphone ne passe plus avec cette ville du Burkina. Il nous disait comment expliquer qu'il y ait eu autant de pertes humaines au Népal après le séisme du 25 avril dernier. Il nous dit que ce séisme était attendu, plus ou moins. C'est vrai que sur ce point, il n'a pas tort. Les sismologues savaient qu'un jour ou l'autre, il y aurait un nouveau tremblement de terre qui frapperait le Népal. Il nous dit, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de construction antisismique. Alors, comment expliquer finalement que les autorités n'aient pas pris les mesures nécessaires ? Daniel Valo est avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial des RFI au Népal. Vous êtes en ce moment à Katmandou, dans la capitale. À vos côtés, Richard Ifono pour la liaison technique. On rappelle le bilan particulièrement lourd. Bilan officiel, toujours provisoire, plus de 7500 morts. Comment expliquer un bilan aussi lourd alors que, effectivement, il y avait eu de nombreuses réunions ces dernières années pour préparer l'éventualité d'un séisme d'une telle ampleur ?
Oui, alors c'est vrai que ça paraît très lourd comme bilan. Plus de 7000 morts, probablement on va arriver aux 10000 morts. Mais les Népalais, eux, considèrent en fait que ce bilan, il aurait pu être beaucoup plus lourd que ça. Tout le monde s'attendait ici, vous l'avez dit, un séisme de très grande ampleur. Et tout le monde estimait que quand ce séisme interviendrait, eh bien justement en raison du manque de préparation du Népal, en raison de son très faible niveau de développement, le bilan humain ne se compterait pas en milliers de morts, mais probablement en dizaines de milliers de morts. On s'attendait en fait à un désastre similaire à celui qu'a vécu Haïti en 2010. Vous vous en souvenez bien sûr. Alors ici, on estime en fait que le Népal a eu dans son malheur la chance que le séisme soit intervenu un samedi, et un samedi à midi, à la mi-journée. Il faut savoir qu'au Népal, le seul jour chômé de la semaine, ce n'est pas le dimanche, mais le samedi. De ce fait, les écoles étaient vides, les entreprises étaient vides et un grand nombre de personnes se trouvaient dans la rue, car en outre, la météo, ce jour-là, à ce moment-là, était clémente. Alors, cela dit, on peut considérer que le nombre de morts et de blessés aurait pu être, en effet, bien moindre. D'abord parce que la plupart des bâtiments népalais n'étaient pas aux normes antisismiques. Ensuite, parce que le gouvernement n'était pas du tout préparé à faire face à ce désastre. On l'a vu dans les premiers jours, dans l'organisation des secours, dans l'acheminement de l'aide humanitaire. Le gouvernement n'était pas prêt, alors que vous l'avez dit, on savait que ce séisme allait avoir lieu.
Ouais. Madi nous demandait également comment l'aide humanitaire est-elle coordonnée. C'est vrai que l'aide arrive depuis quelques jours du monde entier. Alors comment on s'organise sur place ?
Alors officiellement, c'est bien sûr le gouvernement népalais qui doit coordonner cette aide, puisque le Népal est un pays souverain. Mais dans la réalité, le gouvernement est très largement dépassé. Il a été incapable de faire face au drame. Et du coup, ce sont en réalité deux institutions qui s'occupent concrètement de cette coordination, et de l'organisation de cette aide. D'un côté, il y a les Nations Unies par le biais de l'OCHA, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, et de l'autre côté il y a l'armée népalaise qui a joué un rôle très important dans les premiers jours pour aider le gouvernement et l'administration à gérer la crise, et qui finalement ont remplacé le gouvernement et l'administration népalaise dans la gestion de cette crise. Et puis il y a aussi des pays qui agissent un petit peu de leur côté, de façon quasiment autonome. C'est le cas notamment de l'Inde et de la Chine, les deux grands voisins du Népal. Alors cette organisation un petit peu disparate, elle pose évidemment de nombreux problèmes. Il y a une polémique entre le gouvernement et les organisations internationales sur la façon dont l'aide est acheminée jusqu'aux zones sinistrées. On a beaucoup parlé de l'engorgement de l'aéroport de Katmandou. On a parlé également des lenteurs de l'administration népalaise, notamment des douanes. Et de fait, il y a beaucoup d'ONG qui se sont retrouvées dans une situation assez ubuesque, c'est-à-dire qu'elles avaient du personnel sur place, elles avaient du matériel sur le tarmac de Katmandou, mais pour des raisons administratives, elles ne pouvaient pas amener ce matériel jusqu'aux populations sinistrées.
Ouais, des ONG qui ne cachent pas d'ailleurs leur frustration. Merci beaucoup Daniel Vallaud d'avoir été avec nous en direct de Katmandou, et merci à Richard Rifono pour la liaison satellite entre Paris et le Népal. Rebonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour.
C'est à vous maintenant de répondre à Sonny qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Sonny.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions concernant la Corée du Nord?
Oui, tout à fait Juan. En réalité, une information selon laquelle le président nord-coréen Kim Jong-un aurait fait exécuter 15 personnes, parmi lesquelles certains membres de son gouvernement, circulent depuis. Alors, j'ai deux questions. La première serait de savoir si cette information est vraie et comment se l'est procuré. Et la deuxième,
oui,
c'est pourquoi la communauté internationale ferme les yeux sur ce qui se passe en Corée du Nord, étant donné que c'est l'une des pires dictatures dans le monde.
Ouais. Alors Stéphane Lagarde, la question de Sonny est très intéressante. C'est vrai qu'on a appris il y a quelques jours que Kim Jong-un aurait ordonné, je dis aurait parce que c'est difficile d'avoir une confirmation d'une telle information, mais il aurait exécuté 15 dignitaires de son régime. Comment peut-on vérifier une telle information dans un pays où, on le sait, probablement c'est le pays le plus hermétique au monde?
Je vais décevoir votre auditeur et puis décevoir aussi sûrement, Juan, mais on peut pas le vérifier tout simplement. C'est le pays le plus fermé de la planète, la Corée du Nord, en tout cas l'un des pays les plus contrôlés sur le plan de l'information. On peut pas croire les médias officiels hein, qui annoncent que ce que veut dire le régime, donc on n'en sait rien. Là, cette information, d'abord, elle est venue de services secrets sud-coréens. Hein. Alors, les services secrets sud-coréens donnent des informations de temps en temps aux reporters sud-coréens. Ça a été repris par l'agence Yonhap, qui est l'agence officielle sud-coréenne, qui emploie le conditionnel en plus. Hein. Alors, c'est quand même, d'habitude, ils prennent pas trop de conditionnels hein, sur la Corée du Nord, ils y vont. Et là, Yonhap prend le conditionnel, parle de aurait exécuté. Donc, à prendre vraiment avec précaution, parce qu'encore une fois, ça vient des services secrets sud-coréens qui sont pas toujours très bien informés, hein, il faut le dire. Par exemple, toute la Corée du Sud a appris la mort de Kim Jong-il, donc le papa de Kim Jong-un, hein, le prédécesseur, à la télé nord-coréenne. Donc les services secrets sud-coréens, ils n'en savent pas grand-chose souvent. On apprend les choses avec les transfuges hein, qui sortent de Corée du Nord, donc les nord-coréens qui s'enfuient. C'est très rare d'avoir des informations, donc c'est très difficile à dire. Cela dit, on peut quand même se dire que dans le contexte de la Corée du Nord d'aujourd'hui, dans le contexte d'une certaine fébrilité depuis l'arrivée au pouvoir de ce jeune dirigeant, hein, Kim Jong-un est très jeune.
Il a une trentaine d'années.
Voilà, il y a eu plusieurs purges, on peut dire, au sein du régime depuis quelques années. Alors on peut les rappeler. En 2013, par exemple, le régent du régime, hein, celui qui était qui aidait Kim Jong-un à diriger,
son oncle,
qui s'appelle Jang Son-taek, effectivement, a été lui-même purgé puis exécuté. On ne sait pas dans quelles conditions. Alors il y a eu des rumeurs comme quoi il aurait été livré à des chiens. Bon, ça c'est évidemment de la rumeur et de la déformation, mais en tout cas c'est sûr que lui il a disparu. Il a disparu d'abord des images. Ça commence comme ça en Corée du Nord. Il y a des observateurs qui tous les jours regardent ce qui se passe à la télévision nord-coréenne. Je vous l'ai dit, la télévision nord-coréenne, c'est une télévision qui dit pas la vérité, qui parle pour le régime, mais cette télévision-là permet de voir qui est sur l'image ou non. Et quand on voit disparaître les officiels sur un écran, ça veut dire que ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et ces officiels-là, là, c'est 15 qui ont été exécutés. On parle par exemple du vice-ministre des forêts, n'est plus à l'image aujourd'hui en Corée du Nord. Alors est-ce qu'il a été exécuté ou non, on sait pas, mais en tout cas, il a disparu de l'image et il aurait été exécuté selon l'agence Yonhap, donc selon les services secrets sud-coréens, parce qu'il était contre une campagne de reboisement en Corée du Nord. Donc on s'aperçoit aussi qu'il y a une certaine fébrilité, au sens où Kim Jong-un, quand il n'est pas content, il fait disparaître les gens qu'il n'aime pas. Il y a eu d'autres disparitions comme ça, notamment.
On parle même de son ex-petite amie.
Voilà. Alors ça, c'est dans un groupe, il y a un groupe qui est très célèbre en Corée du Nord, un groupe de filles hein, qui fait de la musique ponchak, on va dire. Enfin, de la musique traditionnelle, mais moderne, un peu comme Catherine Lara le faisait autrement, je ne sais pas comment, pour ceux qui connaissent Catherine Lara. Enfin, avec des violons électriques, quoi.
D'accord.
Ils font de la musique, voilà. Dans cet orchestre, il y a des amis de l'actuelle femme du dirigeant qui ont disparu, qui ont été exécutés, dit-on aussi. Ça, ce sont des médias japonais qui l'ont rapporté en 2013. Donc, une amie de Ri Sol-ju, 4 femmes avaient disparu dans cet orchestre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Deuxième question, j'ai oublié la deuxième question.
Il nous reste. On a 15 secondes pour répondre. Oui. La communauté internationale ferme les yeux.
Elle ferme pas les yeux du tout. En fait, c'est les Balkans de l'Asie. Donc il y a 4 grandes puissances autour, et c'est pour ça. Au contraire, on ferme pas les yeux. Mais par contre, on n'est pas d'accord. Les États-Unis, le Japon, la Russie sont tous autour de ce pays, donc c'est un peu les Balkans de l'Asie, la péninsule coréenne et la Corée du Nord, donc personne n'intervient finalement.
Merci beaucoup.